Si on veut comprendre la Bible, il faut éviter que les arbres nous cachent la forêt. Parce que c'est vraiment... ça répète toujours un peu la même chose. C'est ça que je ne comprenais pas dans les psaumes. Ça répète toujours un peu la même chose. Et j'ai mis des années à comprendre pourquoi ça répète toujours la même chose. Ça répète toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose pour une raison extrêmement profonde. Parce que quand il y a deux êtres dans la vie, dont l'un aime l'autre, et que l'autre l'aime pas, eh bien, leur conversation quotidienne, c'est toujours la même chose. C'est « tu m'aimes pas, regarde ce que j'ai fait pour toi, tu t'en souviens pas, mais fais attention, ça va mal aller, ça va mal tourner si tu fais ce que je te dis, si tu fais confiance, si tu as confiance en moi. Je te bénirai. Je te protégerai de tes ennemis. Je les exterminerai au besoin. Et tout ira bien. Et tu seras heureux. Si tu n'oublies pas mon alliance d'amour, cet amour que je t'ai proposé en t'appelant par ton nom, tu verras comme tu seras heureux, Israël. Ah, tu verras. Mais si tu oublies, Israël, hein? Alors tu verras aussi ce que tu verras. Et je vous parlais du Deutéronome. À mes yeux, dans l'Ancien Testament, c'est peut-être le livre le plus poignant de tout l'Ancien Testament. J'ai essayé de vous résumer le Deutéronome à ma sauce, hein, si vous permettez. Parce que ça résume tellement toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à Jésus-Christ. Que c'est tout de même très impressionnant. Voilà, le Deutéronome, ça se situe au moment où ils ont traversé la mer. Autrement dit, ils ont vu. Il y a des moments dans notre vie comme ça où on voit. En général, il n'y en a qu'un. Parce que Dieu, un jour ou l'autre, il nous montre de quoi il s'agit. Il nous montre comment il nous aime. Il nous montre quelle merveille il est prêt à faire pour nous. Comme dit la Vulgate, justement, in manu potenti et brachio excelso, n'est-ce pas ? Avec une main puissante et le bras déployé, il nous délivre, il nous libère, il nous arrache à toutes nos chaînes. Il nous fait traverser la mer Rouge, il nous délivre de nos Égyptiens à nous. Nous avons tous des Égyptiens. Ça commence comme ça, l'histoire du peuple juif. Je ne parle pas de l'histoire d'Abraham, qui est de la préhistoire du peuple juif, qui est encore plus passionnante, d'ailleurs. Moi, ça, je ne peux pas en parler de tout à la fois. Alors, mais l'histoire du peuple juif proprement dit, ça commence quand Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la détresse de mon peuple. » Voilà, ça commence là. « J'ai vu la détresse de mon peuple. » Et j'ajoute tout de suite, parce que... j'y reviendrai. J'ai vu la détresse de mon peuple et lui, il ne la voit pas. C'est Dieu qui voit notre détresse. Même quand nous souffrons et que nous sommes accablés, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes bien plus en détresse encore que nous ne l'imaginons. Et nous ne sommes pas bouleversés comme Dieu lui-même par notre propre détresse. Dieu seul est vraiment, comme dit le père Brault dans un livre qui vient de paraître, Dieu seul est humain. J'ajouterai, alors c'est plus audacieux, Dieu seul est en détresse. Ou plutôt, Dieu seul sait ce que c'est que la détresse. Dieu seul sait ce que c'est que notre détresse. Et alors, justement, la première chose qu'il dit à Moïse, j'ai vu, toi t'as rien vu. Eux, ils n'ont rien vu. Ils ne comprennent rien. Moi, j'ai vu la détresse de mon peuple. Et alors, je vais lui faire voir à mon peuple ce que je suis capable de faire pour lui. Alors, naturellement, Moïse a beaucoup de mal à y croire. Inutile de vous rappeler l'histoire. Ça se passe en difficulté. Les Égyptiens ne lâchent pas prise non, comme ça non plus, n'est-ce pas ? C'est l'histoire des 10 plaies d'Égypte. Et puis la traversée de la mer Rouge. Et alors là, tout de même, le peuple voit. Il est ébloui. Alors il dit, ah oui, alors là, ça, Dieu avec nous, hein, Emmanuel. Mais aujourd'hui, on en fait quelquefois un slogan, Dieu avec nous. Bon, Dieu est avec nous, c'est merveilleux, c'est quelqu'un de formidable. Et puis Moïse et Aaron, vous êtes des gars très bien. Vive Moïse et vive Aaron. Seulement quand ils se trouvent dans le désert, et que ça commence à plus aller aussi bien, alors ils disent, ben c'était pas la peine. On était encore mieux là-bas. Ce n'est pas la peine de nous faire sortir. Et ça va être tout le temps comme ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça pouvait faire à Moïse et à Aaron. Moïse surtout. Il avait fait ça parce qu'il fallait. Mais enfin, il avait été ébloui par le résultat, par la bonté de Dieu et sa puissance. Et lui, il continuait quand même à y croire. Et il pensait que le peuple allait continuer à y croire. Et il a vu que sitôt que ça s'arrête, ben plus il marche plus. Telle la tâche. Dieu ne peut pas s'arrêter un instant en leur disant, fais-moi un peu confiance, tu vois bien ce que je vais faire, tu vois ce que j'ai fait, quoi. Alors, tu ne peux pas attendre 5 minutes pour me faire plaisir un peu à moi aussi, mais je te fais plaisir, alors fais-moi plaisir, enfin il faut qu'on s'aime tous les deux quand même. Une alliance, c'est ça. Tu me fais un peu de crédit. Rien à faire. Mais le peuple a la nuque raide. Le peuple endurci. Ça dure pendant des années et des années. Et alors Moïse, il apprend à connaître ce que c'est que Dieu. Et il apprend à connaître ce que c'est que le peuple. Le peuple élu. Et il est pris en sandwich, vous voyez, entre les deux, entre Dieu et le peuple. Et il y a des moments où il n'en peut plus. Et alors à la fin de sa vie, alors il fait une grande séance finale, un recueil de sermons qui s'appelle le Deutéronome, et je vais me permettre de vous présenter ça de la façon suivante. Il convoque tout le monde dans une salle propice pour ça, et puis il leur fait passer des diapositives. Voyez-vous ? Oui. Mais lisez Deutéronome en pensant à ça, vous verrez que ça, c'est un peu ça. Il leur fait passer des diapositives, tenez, vous voyez ? Vous vous rappelez ? Hein ? Vous vous rappelez ce qui s'est passé là, au rocher où vous avez fait couler de l'eau ? Vous vous rappelez ? Tenez, et puis la mer rouge, vous voyez ? Vous vous rappelez tout ça ? Vous vous rappelez comment vous avez... Vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé ? Et alors justement, il leur montre par ce rappel qu'ils n'ont rien compris, qu'ils n'ont jamais cru, qu'ils sont toujours méfiés, qu'ils ont toujours trahi, qu'ils ont toujours été infidèles. Il dit, voilà ce que vous avez fait, Israël. Tu te rappelles les bons moments qu'on a eus, les moments merveilleux. Puis tu te rappelles ce que tu en as fait. Bon, ben maintenant je vais vous quitter, moi, Israël. Je vais m'en aller. Ce qu'il faut bien, je m'en aille. Parce que je vais retourner avec mes pères. Ça me fait une peine infini de vous quitter, et puis ça me soulage un peu. Comme le Christ lui-même a pu le dire, génération incrédule, combien de temps est-ce qu'il faudra que je sois parmi vous ? J'en ai quand même un peu assez. Alors Moïse en a assez. Il a dit, je vais vous quitter. Alors une dernière fois, je vais vous lire le code, comme on dit. C'est-à-dire, je vais vous lire la règle du jeu. Telle que Dieu a essayé de vous la faire comprendre à travers ma pauvre bouche, mes pauvres paroles et mes pauvres miracles. Voici que je place devant toi la route du bien et du mal. Voilà. Alors écoute bien, une fois pour toutes. Si tu choisis la route du bien, c'est-à-dire si tu es fidèle à croire que Dieu est là, que Dieu t'aime, que Dieu te demande de respecter son alliance, tout ira bien. Tu seras béni, tu seras fécond, je te donnerai la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Nous reparlerons de la terre promise, nous reparlerons de cette traversée du désert et de ce qu'il y a au bout de cette terre promise, au bout de cette traversée du désert, et qui s'appelle la terre promise, si tu choisis la route du bien, tu trouveras cette terre. Si tu choisis la route du mal, alors là, bon, comme je vous l'ai dit, ce sont les imprécations, les invectives, les menaces que vous trouverez tout le temps dans la Bible, tout le long de la Bible, dans la bouche des prophètes, c'est tout le temps, je vous dis, c'est toujours la même chose. J'ai cultivé une vigne, je l'ai entourée, j'ai mis un mur pour la protéger, j'attendais qu'elle me donne des raisins, et qu'est-ce qu'elle m'a donné? Rien, du verger, des fruits secs. Vous voyez, tout le temps, c'est ça les prophètes. C'est très simple, une fois qu'on a vu ça. Une immense scène de ménage. Vous voyez, c'est une immense scène d'amour. D'un Dieu qui se plaint pas, il leur dit pas vous allez être malheureux, il leur dit mais c'est moi qui suis malheureux, alors moi qu'est-ce que vous faites de moi, après tout ce que j'ai fait pour vous. Alors, Moïse reprend ça une dernière fois, il leur dit donc, méfiez-vous, si vous n'êtes pas fidèles, gare à vous, vous verrez ce qui vous arrivera, les calamités qui vous arriveront, je vous expulserai de la terre promise, je vous enverrai en exil. Et puis alors, à un moment donné, il s'arrête. Et c'est là le moment le plus poignant du Deutéronome. C'est un changement musical, un changement de clé, n'est-ce pas? Il y a le ton de la menace, de l'invective et de la colère d'amour. Mais la colère, il leur dit, faites attention. Hein. Bon. Et puis à un moment donné, il s'arrête et il s'effondre. Et là, il ne menace plus, il prophétise parce qu'il voit. Il leur dit, puis en fait, je sais bien, vous trahirez. Mais c'est pas rose, hein. Je sais bien que c'est comme ça que ça va se terminer. Ça va pas se terminer bien. Mais c'est même plus la peine que je menace, je sais. Ça va se terminer mal. Et cette terre promise, ben, vous n'allez pas y rester. Vous irez en exil. Et effectivement, la déportation de Babylone, et même avant la déportation de Babylone, le schisme de Salomon, et au fond même, avant le schisme de Salomon, les péchés de Salomon, les péchés du peuple juif, et ce péché sur lequel nous reviendrons peut-être toujours la même chose si nous avons le temps, ce péché tellement mystérieux et qui me donne le frisson, nous avons. C'est quand le peuple juif dit à Samuel, nous voulons un roi. C'est là que tout a commencé. C'est le commencement de la fin, ça. Et Dieu le prévient, il le dit à Samuel, je donne leur un roi. Si, allez, refuse. Voilà. C'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Mais justement, parce que c'est moi, donne leur un roi. Puis préviens-les. C'est le commencement de la fin. Et à partir de ce moment-là, c'est le glas de la religion juive. Et c'est le glas de la religion juive telle qu'elle a eu lieu avant Jésus-Christ. C'est la fin de cette période des fiançailles, cette période de l'amour, cette période de l'exaltation. Et heureusement, cette mort lente, cette agonie de la religion juive est traversée en même temps, alors bien entendu, mais en même temps, grâce au petit reste d'Israël, alors de la promesse et de l'espérance de cette religion qui ne sera tout de même plus la religion juive, qui sera l'explosion, l'éclatement de la religion juive. Et en même temps son fruit, le plus beau, ce qu'elle est destinée à donner au monde, c'est-à-dire la religion de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ayez un cœur tendre, malléable et vulnérable à la blessure de la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu est un glaive à deux tranchants, si vous la laissez entrer dans votre cœur, elle va vous blesser. Et cette blessure est une béatitude. Bienheureux les blessés. Bienheureux ceux qui ont été blessés par cette, pas profond, par la flèche de l'amour de Dieu. C'est ça. Et qui ne s'en remettent pas. Alors, si cette parole vous visite, et si vous sentez qu'elle va vous toucher, on dit ça déjà dans le langage, ce que vous dites, ça m'a quand même touché. Je vous aime pas, je vous apprécie pas, mais enfin, vous m'avez touché. Eh bien voilà, Dieu nous ennuie, Dieu nous embête, je vous l'expliquerai, si j'ai le temps. Dieu n'a pas de goût, C'est ce que disaient les Hébreux. Les cailles rôties, ça va. Mais la manne, vous savez ce que ça veut dire, hein? Manne où? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est, avec ce petit air d'un petit peu dégoûté d'une nourriture qu'on ne connaît pas, hein, ce qui m'arrive quelquefois quand on me présente quelque chose que je ne connais pas. Il y a parmi vos fromages, il y en a un en particulier qui est... Je n'ai pas encore osé y goûter à ce truc-là. Et alors, j'avoue que j'ai la réaction, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Eh bien, quand la manne est tombée, les Hébreux ont eu exactement cette réaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est devenu, non, manou. C'est ça, la manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Et la manne, c'est le pain descendu du ciel, c'est Dieu. C'est le goût de Dieu. Et quand Dieu se présente à nous, il y a une réaction. Ça n'a pas de goût, c'est insipide, ça ne nous dit rien. Bon, et bien c'est entendu, c'est d'accord, dit Dieu, je ne te dis rien, je ne t'intéresse pas, je t'ennuie, je te rase, et tout. Très bien, hein? Bon. Mais... Tout de même, regarde, par exemple, mon fils en croix, ça te touche pas un peu tout de même? Voilà. Alors on est touché. Et quand on est touché, ben on est blessé. Et le curé d'Ars expérimentait ça très très bien. Le curé d'Ars essayait de toucher son peuple. Il n'y arrivait pas, car les prophètes n'y arrivent jamais. Et Jésus-Christ n'y arrivait pas. Si vous lisez l'évangile d'un peu près, vous verrez que Jésus-Christ n'y arrivait pas. À part des exceptions qui le mettaient dans l'admiration et dans la joie, dans l'ensemble, il n'y arrivait pas. Un exemple flagrant, la multiplication des pains, tout le monde marche. Parce qu'à ce moment-là, c'est les cailles rôties, ça a du goût. Hein. Bon. Et puis après ça, il leur parle du pain du ciel. Il dit, c'est pas ça, il y a un malentendu, vous savez, c'est pas ça que je suis venu vous donner. Je vais vous donner une autre nourriture. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette nourriture? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben c'est mon corps. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Ils étaient 5000 à l'arrivée, il en est resté 5000 au départ, il en est resté 12 à l'arrivée. Voilà comment Jésus-Christ a échoué. Faut bien se rendre compte de ça. Parce que si ces 5000 hommes avaient fait comme les apôtres, s'ils avaient dit, tu as les paroles de la vie éternelle, on ne peut pas te lâcher, il n'aurait pas été crucifié, le peuple aurait empêché ça. Le peuple n'a pas empêché ça parce que le peuple... Cette histoire-là. Donc Jésus-Christ a échoué comme tous les prophètes. Et le curé d'Ars a échoué. Et alors, le cri constant du curé d'Ars, moi ça me... Peuple insensible. Et il ne le reprochait pas de ne pas être vertueux, de ne pas être chrétien, de ne pas pratiquer, mais de ne pas être touché. Peuple insensible, pourquoi tu ne te laisses pas toucher? Dans les choses de la vie humaine, si on veut faire comprendre à quelqu'un qu'on a pour lui une qualité d'amour exceptionnelle, eh bien, il faut, il n'y a rien à faire. Il faut lui dire, je t'aime pas comme les autres. Voilà. C'est pour ça qu'une mère peut avoir quelquefois du mal à faire comprendre l'amour qu'elle a pour ses enfants. Elle les aime tous, comme dit Victor Hugo, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Mais, de temps en temps, il faut quand même que un enfant sent que pour sa mère, il est le seul. Sinon, il ne se sent pas vraiment aimé avec la totalité du cœur de sa mère. Alors, c'est un problème très difficile, n'est-ce pas? Comment faire comprendre à 18 enfants que chacun est le seul, n'est-ce pas? C'est très difficile avec notre petite intelligence, mais avec le cœur, ça se comprend. Eh bien, c'est de cette manière-là que Dieu a éduqué le peuple d'Israël. Il lui a dit, pour moi, tu es le seul. Et ainsi, il nous a préparé à comprendre que parce que Dieu a un cœur de mère, en fin de compte, chacun de nous, pour lui, est le seul. Seulement ça, c'est beaucoup plus calé. Vous comprenez? Et avant de se mettre à comprendre que chacun de nous est unique pour Dieu, il faut d'abord se mettre dans la peau du peuple juif, si je peux dire. Parce que ça, c'est quand même plus facile. Parce que le peuple juif pouvait se dire, ah, je suis tout de même aimé plus que les autres. Je suis le préféré. Alors ça, on peut comprendre. Eh bien, il faut commencer par cette première étape. Il y a eu sur le peuple juif un amour de prédilection et qui n'a pas été donné aux autres peuples. Et comme le dit, je ne sais plus qui le dit, crois que c'est Paul qui dit, nous bénéficions d'une certaine manière de l'infidélité d'Israël. Parce que les invités n'étaient pas dignes, eh bien, on est allé chercher les clochards. Les clochards, c'est nous. C'est nous tous. Nous qui sommes les gentes, n'est-ce pas, les autres peuples. Aux yeux d'un juif, c'est pas grand-chose, les autres peuples. Mais là, c'est pas tout. Parce que vous pensez bien le danger de cette éducation. Dieu a des méthodes d'éducation très, très curieuses, enfin très déroutantes. Et c'est très dangereux quand on a plusieurs enfants, et mettons que tous les peuples sont des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alors on a plusieurs enfants, on en prend un, on lui dit, toi, tu es mon préféré, hein, tu es mon bien-aimé, je t'aime plus que les autres. Qu'est-ce que ça va donner? Normalement. Étant donné le cœur humain, eh bien le préféré va se dire, alors attention, hein, moi je suis le préféré. Et alors ça c'est très grave, c'est très dangereux, et c'est la source de cet orgueil beaucoup plus dangereux, l'orgueil original qui va être l'orgueil du peuple juif. Je suis supérieur aux autres hommes, puisque je suis préféré. Et on va avoir un mal fou, un mal de chien à sortir de cette logique. Du moment que Dieu m'aime plus, c'est que je suis supérieur aux autres hommes. Ou encore, cette autre logique, du moment que je suis inférieur, ou pauvre, ou peu important, alors Dieu ne m'aime pas. Ou Dieu ne m'aime pas tant que ça. Je n'ai pas tellement d'importance aux yeux de Dieu. Et c'est cette logique que Dieu va essayer de briser par toute l'éducation qu'il va donner au peuple d'Israël. En lui disant, écoute bien Israël, si je t'ai choisi, fais bien attention, c'est pas parce que t'es mieux que les autres. C'est en toute lettre dans la Bible, ça. Et il faut en effet y faire très attention. C'est pas parce que t'es mieux que les autres. Non. C'est au contraire parce que t'es moins bien. Voilà. Et alors là, vous voyez, à la place de cet orgueil très spécial qui guette le peuple juif, Dieu va demander au peuple juif cette humilité très spéciale, et tout de même plus difficile que l'humilité ordinaire, parce que ça va consister à se reconnaître moins bien que les autres, à se reconnaître pauvre, nu, bouilleux, abandonné. Tu es le plus misérable de tous les peuples. Et, en plus de ça, tu as la nuque raide. À la limite, on pourrait dire, c'est précisément parce que tu es le plus orgueilleux, le plus endurci de tous les peuples, le plus en danger de se perdre de tous les peuples, le plus mauvais de tous les peuples. Eh bien, à cause de ça, je t'ai choisi. Israël. Alors il faut que tu comprennes bien, il faut que tu comprennes bien que je t'aime plus que les autres. Oui, c'est vrai, je t'aime plus que les autres. Mais parce que si je prends la famille humaine, eh bien tu es le demeuré de la famille. Et que ce qui a du prix aux yeux des hommes, voilà, et voilà où ça commence, et la dialectique. Ce qui a du prix aux yeux des hommes, ça n'a justement pas de prix aux yeux de Dieu. Tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, dit Isaïe, précisément parce que tu comptes pour rien aux yeux des hommes. Alors voilà ce qu'il faut que tu comprennes, Israël. Ben, c'est pas très très facile à comprendre, ça. Est-ce que les chrétiens ont compris ça, eux-mêmes? Vous voyez, il faut commencer par là. Et c'est le béaba de ce deuxième degré d'humilité. L'humilité de la confiance, à savoir, j'ai du prix aux yeux de Dieu, dans la mesure même où je n'en ai pas aux yeux des autres, et à mes propres yeux, au fur et à mesure, que quelqu'un accepte de comprendre ça, alors Dieu devient farouche. C'est-à-dire qu'il le soumet à de très 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 drôles d'exercices. Il dit, tu comprends que je t'aime, et tu comprends pourquoi. C'est vrai? C'est bien vrai? Oui, j'assure, je comprends. On va bien voir. Et alors, ça y va. C'est-à-dire des situations invraisemblables où on est sauvé à moins 5. Histoire de voir. On va voir si tu as vraiment confiance en moi. Et ça commence tout de suite avec l'histoire d'Abraham et le sacrifice d'Isaac. Ça, ça ne s'apprenne pas. Je t'aime, je vais donner une postérité innombrable. Regarde les étoiles du ciel dont je vous parlais l'autre jour. Compte-les si tu peux. Et tu sauras quelle sera ta postérité. Et alors, comme gage de cette promesse, il lui donne un fils. Un. Isaac. Et alors, un jour, il lui dit, eh bien, ton fils, bien-aimé, Isaac, donne-le-moi. Rends-le-moi. Sacrifie-le-moi. Et alors, voyez ce qu'il y a de d'ahurissant dans ce comportement de Dieu. C'est pas seulement, nous on voit surtout l'aspect humain. Hein, c'est quand même cruel de sacrifier son fils, bien sûr. Bon. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond encore et de beaucoup plus écrasant dans cette parole de Dieu, c'est que Dieu contredit Dieu. Je te donnerai un enfant, et puis voilà, je le supprime. Je te demande, ou plutôt je te demande de le supprimer toi-même. Alors, Abraham aurait pu dire, votre promesse. Hein? Qu'est-ce que vous en faites de votre promesse, n'est-ce pas? Et alors c'est là où il faut apprendre justement. Si on veut avoir un dialogue d'amour avec Dieu, on ne discute pas avec Dieu. On lui fait confiance ou on ne lui fait pas confiance. C'est à prendre ou à laisser. Si Abraham avait eu le malheur d'élever la parole pour discuter, c'était fini. Et alors, là, nous avons, à propos de ce texte, ce sacrifice d'Isaac, nous avons l'avantage unique, peut-être, dans toute la Bible, d'avoir une exégèse très précise, une interprétation qui est elle-même de la Bible. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, ce texte est commenté. Et alors, l'Épître aux Hébreux écarte, là encore, la tentation que nous aurions d'interpréter le sacrifice d'Abraham comme un acte d'héroïsme ou de perfection. Tu me demandes mon fils, eh bien je te le donne. Hein? Bon, ou bien de résignation. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur reprend, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Mais alors il avait promis, ben oui, il avait promis. Moi, je ne sais plus. Après tout, vous savez, comme les amis de Job, Dieu est grand, on ne peut pas savoir, il ne faut pas chercher, il ne faut pas discuter, alors en effet. Il fait ce qu'il veut. Qui suis-je pour l'intéresser tellement? Après tout, je ne suis qu'un ver de terre, je ne suis qu'un vermisseau, je ne suis rien. Ça lui a, il avait l'air d'avoir envie de m'aimer, oui. Mais après tout, il n'est pas obligé de m'aimer. Vous voyez, c'est ça. Après tout, il n'est pas obligé de m'aimer tant que ça. Il faut croire qu'il ne m'aime pas tant que ça, puisqu'il me demande de lui rendre Isaac. Après tout, je dois m'y résigner. Il faut accepter de n'être qu'une créature. Et de n'avoir pas beaucoup d'intérêt aux yeux de Dieu. Vous savez, oui, je comprends que ça vous paraisse drôle, mais combien de vies chrétiennes sont sous cette lumière? Cette résignation larmoyante, oh, et quelquefois sinistre. Eh bien, écoutez, s'il y a quelqu'un qui aurait eu l'excuse d'adopter cette attitude de résignation accablée et de se dire, après tout, je n'ai pas le droit, quel titre est-ce que j'ai à être aimé de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il m'aimerait plus que les autres? Ben, c'est Abraham. Eh bien, l'Épître aux Hébreux, justement, nous donne la certitude, c'est ça que si je suis aussi fort pour vous dire ça, c'est que par l'Épître aux Hébreux, je sais que c'est pas ça qu'a pensé Abraham. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Il ne s'est pas résigné du tout, il ne s'est pas dit à peu près, même, après tout, j'ai pas le droit, j'ai aucun droit. Il ne s'est pas dit ça. Il a espéré contre toute espérance. Et l'Épître aux Hébreux précise, d'ailleurs, que Abraham ne s'est pas douté du tout comment ça allait se passer, il n'a pas cherché à comprendre. Il a dit, même si je le tue, Dieu peut ressusciter les morts. Voilà jusqu'où c'est allé, d'après l'Épître aux Hébreux. Et sachant que Dieu peut même ressusciter les morts. Vous voyez la folie de la confiance. Et vous voyez la folie, justement, de cette confiance qui repose sur l'humilité. C'est précisément parce que Abraham n'essayait pas de mesurer l'amour de Dieu à sa propre valeur. Si le malheureux avait si peu que ce soit essayé de mesurer l'amour de Dieu à sa propre valeur, il n'aurait jamais pu espérer contre toute espérance. Il n'aurait jamais pu espérer que l'amour de Dieu aille jusqu'à ressusciter les morts. Vous comprenez ça? On ne peut pas se dire, je suis quand même quelqu'un de bien.
je travaille sérieusement pour le royaume de Dieu, il a besoin de moi. Alors, il va ressusciter mon fils. On ne peut pas aller jusque-là. On ne peut pas. Donc, si Abraham a espéré contre toute espérance, c'est parce qu'il a senti que cette prédilection de l'amour de Dieu reposait sur sa pauvreté. Que c'est ça qui avait séduit le cœur de Dieu, et c'est ce que nous comprendrons encore beaucoup mieux quand nous verrons le mystère du Christ et ce que le Christ nous enseigne à ce sujet-là. Mais enfin, voyez déjà ce que Dieu demande à Abraham dans ce domaine. Et ça continue toute l'histoire d'Israël. Je pourrais en évoquer combien des histoires de ce genre. Bon, évidemment, c'est une drôle d'affaire. Et c'est tellement une drôle d'affaire que, comme je vous l'ai déjà dit, elle s'est terminée mal. En ce sens que, si vous voulez, Israël et Dieu jouent à savoir lequel va céder le premier. Israël ne veut pas être pauvre et Dieu veut qu'Israël soit pauvre. Et le drame, ben c'est Dieu qui a cédé le premier. C'est ça le drame d'Israël. Israël, ce serait le plus grand danger que tu pourrais courir, justement. Ben, je t'ai dit, tu n'es pas un peuple comme les autres. Alors, tu trouves ça merveilleux, au début. Tu trouves ça... je te dis, je t'aime, j'ai un amour de prédilection pour toi. Bon, alors tu es très content. Tu dis, oh, tout à fait d'accord, enchanté. Hein? Bon, et puis tu vas voir ce que ça veut dire dans le concret, de ne pas être comme les autres. Alors, ce que ça veut dire. Ça veut dire justement de n'avoir aucun moyen pour te défendre comme en ont les autres. De ne pas pouvoir être de ceux qui ont de la surface, de la consistance, de l'existence. Car comme le dit Paul, le dira Paul plus tard, Dieu choisit ce qui n'est rien pour confondre ce qui est. Eh bien, sa première démonstration de ça, c'est le choix d'Israël. Seulement, il faut qu'Israël consente à n'être rien. Alors à chaque fois qu'Israël consent à n'être rien, Dieu fait triompher Israël sur tous ceux qui sont quelque chose. Mais un bon Dieu, Israël en a eu plein d'eau de n'être rien. Il a dit, c'est très beau l'amour de Dieu, c'est très beau tout ça, mais ça donne des émotions de cœur. Hein, c'est des palpitations de cœur. Hein, c'est ces batailles qui sont toujours gagnées au dernier moment, où c'est traversé du désert, où on meurt de faim, on meurt de soif, et puis les cailles arrivent, l'eau arrive au moment où on s'y attend plus. J'y tiens plus. Moi, je veux être comme les autres. Voyez ça. C'est tragique, ça. Hein? Le bien-aimé, le privilégié qui en a assez d'être privilégié. C'est très beau, tout ça. Mais je veux être comme les autres. Mais les autres, ils ont un roi pour défendre. Ils ont nous aussi. Et alors là, c'est le drame d'Israël, oui. Mais en fait, Dieu savait ce qu'il faisait et qu'il préparait les voies au Christ. Mais enfin, dans l'histoire du peuple saint, dans l'histoire sainte, c'est le moment absolument critique. C'est le moment où d'une certaine manière, Dieu abandonne son peuple. D'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, il ne s'occupera plus que du petit reste. Pratiquement. Et à partir de ce moment-là, il prépare le Christ. Mais vraiment. Mais comme peuple, Israël est fini. À partir du moment où il a dit, je veux être comme les autres, je veux un roi. Et Dieu dit à Samuel, eh bien, donne-le-leur la belle alliance que j'avais rêvée entre lui et moi au temps du désert, où je l'ai fiancé à moi dans la fidélité. Eh bien, c'est fini. C'est fini. Il veut être comme les autres, eh bien, il sera comme les autres, et puis il verra ce que ça donnera. Et de fait, dans un premier temps, ça donne quelque chose d'absolument merveilleux avec Salomon. C'est vraiment le sommet de la vague, et puis la grande déroute. Il reste une chose à dire sur le peuple juif, c'est que malgré tout, le genre d'amour que Dieu propose au peuple juif n'est pas aussi profond, aussi extraordinaire que celui que nous révélera Jésus-Christ et dont nous parlerons demain. Mais enfin, c'est tout de même pas mal. Car la comparaison constante que Dieu emploie pour faire comprendre au peuple juif de quelle manière il l'aime et de quelle manière il demande au peuple juif de l'aimer, c'est celui de l'époux et de l'épouse. Alors ça nous est attesté par toute la Bible, par Osée, par d'autres textes, et naturellement par le Cantique des Cantiques, qui est le plus beau poème d'amour qui ait jamais existé. Ça, on ne pourra pas en trouver de comparable. Et ça chante l'amour de Dieu pour sa vigne bien-aimée, justement. Donc, ça nous aide à comprendre que si Dieu a institué l'amour humain, s'il a créé, s'il a mis dans notre cœur l'amour humain, c'est d'abord pour faire comprendre, c'est la première étape, c'est la première intelligence qu'on peut avoir de l'amour de Dieu pour nous. C'est pas l'intelligence suprême, le Christ nous donnera une intelligence plus profonde encore. Mais la première intelligence que nous pouvons avoir de Dieu pour nous, c'est à travers ce miroir de l'amour nuptial que nous pouvons le pressentir. Et ça, il n'y a pas d'autre. Israël est élevé dans cette perspective. Il est éduqué dans cette perspective. Je t'ai fiancé à moi. Et quand Dieu se met en colère contre Israël, c'est parce que, à ses yeux, Israël est adultère. Du simple fait qu'il se détourne de la confiance et de la fidélité qu'il doit à son époux, qui est Dieu. Ça, c'est net. Vous voyez. Alors, le Christ ira plus loin encore. On peut se demander comment. Ben, nous commencerons à voir ça à partir de demain. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Et alors, ça nous oblige donc à ramasser tout ce que nous avons dit. Donc, dans cette formule, au fond, l'amour de Dieu pour Israël, c'est l'amour nuptial du tout pour le rien. Tous les peuples de la terre, Dieu les aime. Ça, il n'est pas question de le nier pour Israël. Mais il ne les aime pas comme ça. Oui, c'est ça. Il ne les aime pas, je dirais, de cet amour dangereux. Et passionné et jaloux que représente précisément l'amour nuptial. Voyez, une amitié, c'est inoffensif. Un amour, c'est très beau, mais c'est fatigant. C'est très fatigant. Surtout qu'il y a des gens qui, justement, qui ont l'amour très passionné et qui sont vraiment très très fatigants. Alors là, hein. Eh bien, Dieu, il est très très fatigant pour Israël. Et alors Israël, justement, risque d'en avoir assez et de dire, écoutez, j'aimerais mieux être aimé plus raisonnablement. Enfin, voyez, être aimé un peu moins. Et il y a de ça même dans les plaintes de Job, vous savez. Job, c'est admirable le livre de Job, il faudrait que vous le lisiez et le relisiez. Job se plaint à la fois de ne pas être assez aimé de Dieu et d'être trop aimé de Dieu. Il se plaint pas d'être trop aimé, mais il se plaint d'être trop surveillé. Ton œil est là qui regarde chacune de mes actions et qui les épluche. Espion des hommes. Job traite Dieu d'espion des hommes. Tu m'espionnes. Parce qu'il sent bien que le regard de Dieu est constamment pesé sur lui. Et comme il ne peut pas comprendre encore à quel point c'est un regard d'amour et de douceur et de délicatesse et de timidité même de la part de Dieu, alors il apprécie pas, quoi. Il en souffre même énormément. Il rugit et il supplie Dieu, laisse-moi mourir. Laisse-moi tranquille, laisse-moi mourir tranquille. Ne m'aime pas tant que ça. Vous voyez que c'est déjà pas mal de devenir juif. Hein? Au fond, qu'est-ce qu'un religieux? C'est quelqu'un à qui il arrive individuellement ce qu'il est arrivé au peuple juif. Je t'aime plus que les autres. Qu'est-ce que le vœu de chasteté? Mais c'est tout simplement la réponse à la perception d'une jalousie de Dieu. C'est pas du tout un mépris à l'égard de l'amour humain. Au contraire. Au contraire, on voudrait bien, on trouve que c'est magnifique l'amour humain. Mais on trouve que c'est tellement beau qu'on sent que justement un amour humain n'est vraiment beau que s'il est jaloux. Un amour qui n'est pas jaloux, c'est pas sérieux. Et quelqu'un qui prétendrait vous aimer sérieusement mais qui ne serait pas jaloux, il dit, non, tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Mais tu m'aimes pas ce qui s'appelle aimer. La grâce de la vocation religieuse, c'est d'abord ça. C'est de percevoir une certaine jalousie de Dieu sur nous. C'est magnifique, mais c'est fatigant. Alors ça, je reconnais. Alors après ça, vous comprenez, aller se plaindre que justement c'est difficile, la chasteté, toutes ces choses-là, tout à fait d'accord. Mais enfin, c'est l'envers de la médaille. À partir du moment où nous savons que Dieu est infiniment miséricordieux, tout ce que nous demandons avant tout, parce que c'est ça la grave infidélité contre le vœu de chasteté, j'en parle comme ça en passant, parce que j'y insiste pas beaucoup, mais l'infidélité grave contre le vœu de chasteté, c'est de murmurer. C'est bien plus grave que les péchés eux-mêmes. Parce que ces péchés d'Israël, nous en avons assez d'être aimés.